Chapitre 19. Washington DC, samedi 20 décembre 1980. Vous ignorez tout de la véritable nature de la violence, dit à Saul Lasky la chose qui avait été Francis Harrington. Il marchait le long du Mail en direction du Capitole. Les rayons glacés du soleil couchant illuminaient le granit blanc des bâtiments et les nuages de gaz qui s'échappaient des bus et des voitures. Quelques pigeons sautillaient précautionneusement près des bancs inoccupés. Saul sentit les muscles de son ventre et de ses cuisses qui tressaillaient, et il sut que cette réaction n'était pas seulement due au froid. Un émoi extraordinaire l'avait saisi dès qu'ils avaient quitté la National Art Gallery. Après toutes ces années, vous vous considérez comme un expert en matière de violence, dit Harrington en allemand. Une langue que Saul ne l'avait jamais entendu parler. Mais vous n'y connaissez rien. Que voulez-vous dire ? Demanda Saul en anglais. Il enfonça ses mains dans les poches de son manteau. Il ne cessait de tourner la tête de droite à gauche, dévisageant un homme qui sortait du bâtiment est de la National Art Gallery, plissant les yeux pour mieux voir une silhouette solitaire assise sur un banc éloigné, essayant de voir à travers le pare-brise polarisé d'une limousine avançant ou pas. Où êtes-vous, Oberst ? L'idée que le colonel nazi puisse être tout proche noua les muscles de son diaphragme. Vous considérez la violence comme une aberration, poursuivit Harrington dans un allemand impeccable, alors qu'il s'agit en fait de la norme. C'est l'essence même de la condition humaine. Saul se força à prêter attention à la conversation. Il devait faire sortir l'Oberst de sa tanière, trouver un moyen de libérer Francis du contrôle exercé par le vieil homme, trouver l'Oberst lui-même.
Ridicule, dit-il. La violence est un défaut très répandu, mais ce n'est pas l'essence de la condition humaine, pas plus que la maladie. Nous sommes en voie d'éradiquer des maladies comme la polio et la variole. Nous sommes capables d'éradiquer la violence dans les relations humaines.
Saul avait pris un ton professoral. Où êtes-vous, Oberst ? Harrington éclata de rire. C'était un rire de vieillard, saccadé, grayonnant. Saul regarda le jeune homme qui marchait à ses côtés et frissonna. Il eut soudain une pensée horrible. Le visage de Francis, ses courts cheveux roux, les taches qui constellaient ses pommettes hautes, ressemblaient à un masque de chair dissimulant le crâne d'un autre. Le corps de Harrington paraissait étrangement massif sous son long imperméable, comme si le jeune homme avait brusquement grossi, ou comme s'il était vêtu de plusieurs couches de pull-over vert.
Il est impossible d'éradiquer la violence, pas plus que l'amour, la haine ou le rire,
dit la voix de Willy von Borchert par la bouche de Francis Harrington.
L'amour de la violence est un aspect de notre humanité. Même les faibles rêvent d'être forts afin de pouvoir manier le fouet.
Ridicule, dit Saul.
Ridicule, répéta Harrington.
Ils avaient traversé Madison Drive et se trouvaient devant le bassin réfléchissant du Capitole. Harrington s'assit sur un banc face à la troisième rue. Saul fit de même, regardant tout autour de lui pour examiner tous les visages visibles. Il n'y en avait pas beaucoup. Aucun ne ressemblait à celui de l'Oberst.
« Mon cher juif, dit Harrington, regardez donc Israël.
Hein ? » Saul se tourna vers Francis. Ce n'était plus l'homme qu'il avait connu.
Que voulez-vous dire ? Votre cher pays adoptif est célèbre pour ses actes de violence à l'encontre de ses ennemis, dit Harrington. Œil pour œil est sa philosophie, la juste vengeance sa politique, l'efficacité de son armée et de son aviation sa fierté. Israël ne fait que se défendre.
L'aspect surréel de cette conversation donnait le vertige à Saul. Au-dessus d'eux, le dôme du Capitole accrocha les derniers rayons de lumière. Harrington éclata de rire une nouvelle fois.
Ah oui, mon fidèle pion. La violence est toujours plus acceptable si elle est exercée pour se défendre. D'où la Wehrmacht.
Il insista sur Wehr, défense.
Israël a des ennemis, nicht wahr? Mais le Troisième Reich en avait aussi. Et son pire ennemi était sans doute cette vermine même qui jouait les victimes impuissantes tout en complotant la destruction du Reich et joue aujourd'hui les héros tout en opprimant les Palestiniens.
Saul ne répondit pas à cette provocation. L'antisémitisme de Lauberst lui paraissait infantile.
« Que voulez-vous ? »
demanda-t-il à voix basse. Harrington haussa les sourcils.
« Quel mal y a-t-il à retrouver une vieille connaissance pour avoir une discussion intéressante avec elle ? »
dit-il en anglais.
« Comment m'avez-vous retrouvé ? »
Harrington haussa les épaules.
« Je dirais plutôt que c'est vous qui m'avez retrouvé, »
murmura-t-il d'une voix rauque, totalement étrangère à celle de Francis Harrington.
« Imaginez quelle a été ma surprise lorsque mon cher pion a débarqué à Charleston. Mon jeune juif errant est très loin de Helmno. »
Saul faillit lui demander « Comment m'avez-vous reconnu ?» Mais il se retint. Les quelques heures durant lesquelles ils avaient partagé le corps de Saul, presque 40 ans auparavant, avait créé entre eux une répugnante intimité, plus durable que les mots ne pouvaient l'exprimer. Saul savait qu'il reconnaîtrait tout de suite Lauberst, qu'il l'avait tout de suite reconnu en dépit de l'érosion de sa mémoire au fil du temps.
« Vous me suivez depuis Charleston ?»
demanda-t-il. Harrington sourit.
J'aurais eu beaucoup de plaisir à assister à une de vos conférences à Columbia. Peut-être aurions-nous pu débattre de l'éthique du Troisième Reich.
Peut-être.
Et peut-être pourrions-nous débattre de la santé mentale d'un chien enragé. Mais il n'existe qu'une seule solution à une telle maladie, abattre le chien.
C'est ça, siffla Harrington.
Une nouvelle version de la solution finale. Les Juifs n'ont jamais été une race subtile.
Saul frissonna. Derrière cette voix calme, derrière cette marionnette humaine, se dissimulait un homme qui avait assassiné des centaines, peut-être des milliers d'êtres humains. Saul ne voyait qu'une seule raison pour laquelle Lauberst s'était efforcé de le retrouver et l'avait suivi depuis Charleston. Il voulait le tuer. Lauberst Wilhelm von Borchert, alias William Borden, s'était dépensé sans compter pour convaincre le monde de sa mort. Il n'avait aucune raison de révéler ainsi sa présence à celui qui était peut-être le seul à connaître sa véritable identité, sauf pour mener à bien la phase finale de quelques jeux du chat et de la souris. Saul enfonça sa main dans sa poche et agrippa le rouleau de pièces de monnaie qui y était caché. C'était la seule arme qu'il ait jamais portée depuis la forêt des hiboux, en Pologne, 26 ans auparavant. S'il réussissait à assommer Francis, une tâche bien plus difficile que ne le suggéraient le cinéma et la télévision, il le savait, que ferait-il ensuite?
Fuir. Mais qu'est-ce qui empêcherait Lauberst de pénétrer son esprit?
Saul frémit à l'idée de subir un nouveau viol mental. Il ne finirait même pas comme victime d'une agression, mais comme une simple donnée statistique. Un professeur distrait qui avait traversé une rue animée de Washington après le crépuscule. Il n'abandonnerait pas Francis Harrington. Saul referma le poing autour du rouleau de pièces et sortit lentement sa main de sa poche. Il ne savait pas si le jeune homme pouvait être ramené à la vie. Un regard jeté au masque qui lui faisait face le persuada du contraire, mais il savait qu'il devait essayer. Comment transporter un corps inconscient le long du Mail, sur une longueur d'un pâté de maison et demie jusqu'à sa voiture de location? Connaissant Washington, Saul était persuadé que ce type de scène s'y était déjà déroulé. Il se décida. Il laisserait le jeune homme sur le banc, se précipiterait vers sa voiture, regagnerait la troisième rue le pied au plancher, freinerait au bord du trottoir et jetterait le corps inanimé sur la banquette arrière. Saul ne voyait aucun moyen d'empêcher Lauberst de s'emparer mentalement de lui. Peu importait. D'un geste machinal, il sortit de sa poche son poing serré autour des pièces, le dissimulant à la vue en le plaquant contre sa cuisse.
« Je veux que vous rencontriez quelqu'un, » dit Harrington.
« Hein ?»
Le cœur de Saul battait si fort qu'il pouvait à peine parler.
« Je souhaite que vous rencontriez quelqu'un, » répéta l'Oberst en forçant le corps de Harrington à se lever. « Je pense que cela vous intéressera. »
Saul resta assis. Son poing était si serré que des vibrations parcouraient toute la longueur de son bras.
« Tu viens, juif ?»
Ces mots allemands, et la voix qui les prononçait, étaient presque identiques à ceux que l'Oberst avait utilisés dans le baraquement de Helmno, presque 38 ans auparavant.
« Oui. »
Saul se leva, mit les mains dans les poches de son manteau, et suivit Francis Harrington dans la soudaine obscurité hivernale. C'était le jour le plus court de l'année. Quelques touristes hardis attendaient l'autobus ou couraient vers leur voiture. Ils descendirent Constitution Avenue, passèrent devant le Capitole et firent halte devant la sortie du parking du bureau des sénateurs. Au bout de quelques minutes, les portes automatiques s'ouvrirent et une limousine sortit de l'immeuble. Harrington descendit la rampe d'accès en courant et Saul le suivit, baissant la tête alors que la grille métallique se remettait en place. Deux gardes les avaient vus. Le premier, un homme obèse au visage rougeau, se dirigea vers eux.
« Il est interdit d'entrer ici, bon sang » cria-t-il. « Faites demi-tour et foutez le camp, avant que je vous fasse jeter en tôle. »«
Hé, pardon !»
s'exclama Francis Harrington, dont la voix semblait avoir retrouvé sa tonalité.
« Écoutez, on a des passes pour aller voir le sénateur Kellogg, mais la porte qu'il nous a dit d'emprunter est fermée à clé, et personne n'est venu quand on a frappé. »«
Porte principale !»
dit le garde sans cesser d'agiter les bras. Son collègue était resté dans une cabine fermée. Sa main droite était posée sur la crosse de son revolver, et il observait Saul et Harrington avec beaucoup d'attention.
« Mais il n'y a plus de visite après 5 heures. Alors foutez le camp d'ici avant que je vous fasse arrêter. Caletez !»«
Entendu !»
dit Harrington d'une voix aimable. Et il sortit un pistolet automatique de la poche de son manteau. La balle qu'il tira alla se loger dans l'œil droit du garde. Le second garde resta cloué sur place. Saul avait tiqué en entendant la détonation, et il se rendait compte à présent que l'immobilité du garde n'était pas due à la peur. L'homme s'efforçait désespérément de bouger son bras droit, mais sa main se contentait de trembler comme celle d'un épileptique. La sueur se mit à couler sur son front et sur sa lèvre supérieure, et ses yeux s'exorbitèrent.
« Trop tard !»
dit Harrington, et il lui tira 4 balles dans le cou et dans le torse. Saul entendit un « pfft » et se rendit compte qu'un silencieux était fixé au canon. Il fit mine de bouger, se figea lorsqu'Harrington braqua son arme sur lui.
« Amenez-le à l'intérieur !»
Saul obtempéra, exhalant des nuages de vapeur dans l'air glacé quand il traîna le corps massif du garde à travers la rampe et dans la cabine. Harrington éjecta le chargeur de la crosse et en glissa un autre d'un geste sec. Il s'accroupit pour ramasser les 5 douilles.
« Montons !»
dit-il.
« Il y a des caméras vidéo ?»
octa Saul.
« Oui, dans le bâtiment proprement dit, »
répondit Harrington, s'exprimant de nouveau en allemand.
« Le sous-sol n'est équipé que d'un téléphone. »«
On va remarquer l'absence des gardes !»
dit Saul d'une voix plus ferme.
« Sans le moindre doute. Je vous suggère de presser le pas. »
Ils arrivèrent au rez-de-chaussée et s'engagèrent dans un long couloir. Un vigile leva les yeux de son journal pour les regarder avec surprise.
« Je suis désolé, monsieur, mais cet immeuble est fermé après... »
Harrington lui tira 2 balles dans la poitrine et traîna son corps jusqu'à la cage d'escalier. Saul s'appuya contre une porte en bois. Il avait les jambes en coton et se demandait s'il n'allait pas se trouver mal. Il envisagea de fuir, envisagea de hurler, et se contenta de s'accrocher au montant de chêne pour ne pas tomber.
L'ascenseur, dit Harrington.
Le couloir du deuxième étage était vide, mais Saul entendit un lointain bruit de rire et de conversation. Harrington ouvrit la quatrième porte à droite. Une jeune femme était en train de poser une housse protectrice sur une machine à écrire électrique IBM.
« Je suis désolé, » dit-elle, « mais il est... »
Le pistolet de Harrington décrivit un arc qui s'acheva sur sa tempe gauche. Elle s'effondra sur le sol presque sans un bruit. Harrington attrapa la housse qu'elle avait laissée tomber et la glissa sur la machine à écrire. Puis il agrippa Saul par son manteau et le traîna dans une antichambre vide, puis dans un vaste bureau obscur. Saul aperçut le dôme illuminé du Capitole entre deux rideaux sombres. Harrington ouvrit une nouvelle porte et la franchit.
« Salut, Trask !» dit-il en anglais.
L'homme maigre assis derrière le bureau leva les yeux d'un air surpris. Et au même instant, un homme robuste, vêtu d'un costume marron, bondit sur eux depuis le divan. Harrington tira à deux reprises sur le garde du corps, alla jeter un coup d'œil au petit automatique que l'homme avait laissé tomber sur le sol, puis lui tira une troisième balle derrière l'oreille gauche. Le corps massif tressauta, décocha un coup de pied sur l'épaisse moquette, puis cessa de bouger. Niemann Trask n'avait pas bronché. Il tenait toujours un calepin dans sa main gauche et un stylo en or de chez Cross dans sa main droite.
« Asseyez-vous, » dit Harrington à Saul en lui indiquant le divan de cuir.
« Qui êtes-vous ? »
s'enquit Trask. Le ton de sa voix exprimait une vague curiosité.
« Ce n'est pas le moment de poser des questions, » dit Harrington.
« Premièrement, notez bien que mon ami, » il indiqua Saul, « doit être laissé en paix. S'il quitte ce divan, j'ouvre ma main gauche. »
« Votre main gauche ?» dit Trask.
La main gauche de Harrington était vide lorsqu'il était entré dans la pièce. À présent, on pouvait y voir un petit disque en plastique avec un bouton en son centre. Le fil électrique isolé qui y était connecté disparaissait dans la manche de son imperméable. Son pouce était posé sur le bouton.
« Ah, je vois !»
dit Trask d'une voix lasse, et il reposa son calepin. Il prit son stylo dans ses deux mains.
« Explosif ?»«
C4. »
Harrington écarta les pans de son imperméable avec le canon de son pistolet. Il portait une épaisse veste de pêcheur dont chacune des poches était remplie à ras-bord. Saul aperçut des bouts de fil électrique.
« 6 kilos de plastique, » précisa Harrington.
Trask hocha la tête. Il paraissait maître de lui, mais les phalanges qui enserraient son stylo étaient blanches.
« C'est plus que suffisant, » dit-il.
« Que voulez-vous ? »
« Je souhaite vous parler, »
dit Harrington en s'asseyant sur une chaise placée à 1 mètre du bureau de Trask.
« Je vous en prie, »
dit celui-ci en s'adossant à son siège. Son regard allait sans cesse de Saul à Harrington.
« Je vous écoute. » « Appelez M. Colben et M. Barent sur votre ligne de conférence, » dit Harrington.
« Je suis navré. »
Trask posa son stylo et écarta les bras.
« À cette heure-ci, Colben est en route pour Chevy Chase, et je crois que M. Barent a déjà quitté le pays. »
Harrington hocha la tête.
« Je vais compter jusqu'à 6. Si vous ne les avez pas appelés, je lève le pouce. 1, 2...
À 4, Trask avait décroché son téléphone, mais plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il n'établisse les deux communications. Il trouva Colben dans sa limousine sur la voie express de Rock Creek et Barent quelque part au-dessus du Maine.
« Branchez le haut-parleur, » dit Harrington.
« Qu'y a-t-il, Niemann ?»
demanda une voix mélodieuse où perçait une pointe d'accent de Cambridge.
« Charles, vous êtes là vous aussi ?»
« Oui, »
grommela Colben.
« Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous foutez, Trask ? Ça fait 2 minutes que vous me faites poireauter au bout du fil. »«
J'ai un petit problème, » dit Trask.
« Niman,
cette ligne n'est pas protégée, » dit la voix onctueuse de Barent. « Êtes-vous seul ?»
Trask hésita et se tourna vers Harrington. Comme celui-ci se contentait de sourire, il répondit
« Non, monsieur. Il y a deux gentlemen avec moi dans le bureau du sénateur Kellogg. »
La voix de Colben grésilla dans le haut-parleur.
« Bordel, Trask, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire ?»«
Du calme, Charles, » dit la voix de Barent.
« Continuez, Niman. » Trask leva la main vers Harrington, paume vers le ciel, comme pour lui dire « Après vous. »
« Monsieur Barent, nous aimerions déposer notre candidature pour devenir membre de l'un de vos clubs, » dit Harrington.
« Je m'excuse, monsieur, mais nous n'avons pas été présentés, » dit Barent.
« Je m'appelle Francis Harrington. Mon employeur, qui se trouve à mes côtés, est le docteur Saul Lasky, de l'Université de Columbia. »«
Trask !» s'exclama la voix de Colben. « Que se passe-t-il ? »
Chut, fit Barent.
« Monsieur Harrington, docteur Lasky, enchanté de faire votre connaissance. En quoi puis-je vous être utile ?»
Sur le divan, Saul poussa un soupir de lassitude. Jusqu'à ce que Loberst prononce son nom, il avait vaguement espéré sortir vivant de ce cauchemar. À présent, même s'il n'avait aucune idée du jeu auquel jouait Loberst, ni des liens entre ces trois personnages et le trio formé par Willy, Nina et Mélanie Fuller, il pensait que Loberst ne l'aurait pas désigné par son nom s'il n'avait pas été résolu à le sacrifier.
« Vous avez parlé d'un club, » souffla la voix de Barent.
« Pouvez-vous être plus précis ?»
Le sourire de Harrington était horrible à voir. Son bras gauche était toujours levé, son pouce pressé sur le détonateur.
« J'aimerais adhérer à votre club, » dit-il.
La voix de Barent semblait amusée.
« J'appartiens à de nombreux clubs, monsieur Harrington. Pouvez-vous être encore plus précis ?»«
Je ne m'intéresse qu'aux plus sélects d'entre eux, » dit Harrington. « Et j'ai toujours eu un faible pour les îles. »
Le haut-parleur eut un gloussement.
« Moi aussi, monsieur Harrington. » Mais bien que M. Trask soit un excellent parrain, je crains que la plupart des clubs auxquels j'appartiens n'exigent des références supplémentaires. Vous avez évoqué la présence de votre employeur, le docteur Lasky. Souhaitez-vous également solliciter votre adhésion, docteur ?
Saul ne trouva aucune réponse susceptible d'améliorer sa situation. Il resta silencieux.
Peut-être... « Représentez-vous également un tiers ?» dit Barent.
Harrington gloussa.
« Il a sur lui 6 kilos de plastique relié à un détonateur que sa mort suffirait à déclencher, »
dit Trask d'une voix dénuée de toute émotion.
« Je considère cette référence comme suffisante. Pourquoi ne pas convenir de nous retrouver ailleurs pour en discuter ?»«
Mes hommes sont en route, » dit la voix sèche de Colben. « Tenez bon, Trask. »
Niman Trask soupira, se passa une main sur le front et se pencha sur le micro.
« Colben, espèce de connard, si vous envoyez quelqu'un à moins de 10 blocs de cet immeuble, je vous arracherai le cœur de mes mains nues. Ne vous mêlez pas de ça, bordel !»«
Barent, vous m'entendez ?» Barent parla comme s'il n'avait rien entendu du dialogue précédent.
« Je suis terriblement navré, monsieur Harrington. » Mais j'ai pour principe de ne jamais faire partie du comité de sélection d'un club dont je suis membre. Mais il m'arrive parfois de parrainer un postulant. À ce propos, peut-être auriez-vous l'amabilité de me communiquer l'adresse de certains membres potentiels que je souhaite contacter.
Je vous écoute, dit Harrington.
Ce fut à ce moment-là que Saul Lasky sentit Trask s'insinuer dans son esprit. Cela lui procura une douleur exquise, comme si on lui avait enfilé une longue tige aiguisée dans l'oreille gauche. Il frissonna, mais on ne lui permit pas de crier. Son regard se posa sur l'automatique, qui gisait toujours sur la moquette, à 30 centimètres de la main tendue du garde du corps. Il perçut les froides supputations provenant de l'esprit de Trask. 2 secondes pour bondir, une seconde pour se redresser et tirer une balle dans le crâne de Harrington, tout en lui saisissant le poignet, et en maintenant son pouce pressé sur le détonateur comme sur une grenade. Saul sentit ses doigts s'ouvrir et se refermer comme de leur propre volonté. Vit ses jambes frémir doucement, s'étirer comme celles d'un sprinteur avant une course. Enfoui de plus en plus profondément dans les oubliettes de son propre esprit, Saul aurait voulu hurler, mais il était sans voix. Était-ce cela que Francis Harrington avait vécu durant plusieurs semaines ?
William Borden, dit Barent.
Saul avait presque oublié le sujet de la discussion en cours. Trask fit légèrement bouger sa jambe droite, déplaça son centre de gravité, raidit son bras droit.
« Je ne connais pas ce gentleman, » dit Harrington.
« Ensuite ?» Saul sentit tous les muscles de son corps se tendre tandis que Trask le préparait à l'action. Il perçut un léger changement de plan. Trask allait le forcer à foncer sur Harrington, à le pousser en arrière tout en empêchant son pouce de lâcher le détonateur, puis il pousserait Francis dans le bureau privé du sénateur et ferait obstacle à la force de l'explosion avec son corps pendant que Trask s'abriterait sous son bureau en chaîne massif. Saul voulait hurler un avertissement à l'Oberst.
« Miss Melanie Fuller, » dit Barent.
« Ah oui, » fit Harrington.
« Je pense que vous la retrouverez à Germantown. »
« De quel Germantown s'agit-il ? » demanda Trask, tout en préparant Saul à l'assaut.
« Ignore le pistolet. Saisis sa main. Force-le à reculer. Veille à ce que ton corps reste toujours entre lui et moi. »
« La banlieue de Philadelphie, » dit Harrington d'une voix enjouée. « Je ne me rappelle pas son adresse exacte, mais si vous inspectez les maisons de Queen Lane, vous devriez pouvoir la localiser. »
« Très bien, » dit Barent.
« Autre chose, si vous pouviez... »«
Excusez-moi un instant, » le coupa Harrington. Il partit d'un nouveau rire. Un rire de vieillard.
Bon Dieu, Trask, vous pensez que je ne sens rien? Vous n'arriverez pas à maîtriser cette carcasse au bout d'un mois d'effort.
Mein Gott, mon vieux, vous tâtonnez comme un adolescent essayant de ploter sa nana, c'est bien l'expression consacrée, dans un cinéma de quartier. Et relâchez donc mon pauvre ami juif tant que vous y êtes. Dès qu'il fait un geste, je lâche le détonateur. Ce bureau se transformera en un millier de missiles de bois.
Là, c'est mieux.
Saul s'effondra sur le divan. Libéré de leur étau, ses muscles furent agités de spasmes.
Bien. Où en étions-nous, monsieur Barent ? Dit Harrington.
On entendit un grésillement pendant plusieurs secondes, puis la voix de Barent sortit à nouveau du haut-parleur.
« Je suis navré, monsieur Harrington, mais je vous parle depuis mon avion privé et j'ai bien peur d'être obligé de vous quitter. Je vous remercie de votre appel et j'espère vous parler à nouveau très bientôt. »«
Barent !»
hurla Trask.
« Bon Dieu, restez en... »«
Adieu, »
dit Barent. Il y eut un déclic. Puis un grésillement sur la ligne.
« Colben !» cria Trask. « Dites quelque chose !»
On entendit une voix de basse.
« Bien sûr. Allez-vous faire foutre, Niman, mon vieux ?»
Nouveau déclic, suivi du bourdonnement de la tonalité. Trask leva les yeux tel un animal aux abois.
« Ce n'est pas grave, »
dit Harrington d'une voix apaisante.
« Je peux vous laisser un message. Nous pouvons encore faire affaire, monsieur Trask, mais je préférais que ce soit en privé. » « Docteur Lasky, si vous le voulez bien ?»
Saul ajusta ses lunettes et scia. Il se leva. Trask lui lança un regard furibond. Harrington sourit. Saul se retourna, traversa le bureau du sénateur d'un pas vif et se mit à courir dès qu'il entra dans l'antichambre. Il courait le long du couloir lorsqu'il se rappela la secrétaire. Il hésita, puis se remit à courir. Devant lui, quatre hommes apparurent au coin du couloir. Saul fit volte-face, vit cinq hommes vêtus de costumes sombres surgir à l'autre bout du couloir,
deux d'entre eux fonçant vers le bureau de Trask. Il se retourna à temps pour voir trois hommes lever leurs armes dans un mouvement coulé, les deux mains sur la crosse, les bras tendus, et les gueules noires des canons lui parurent immenses, même à une telle distance. Soudain, Saul fut ailleurs. Francis Harrington hurlait dans le silence de son propre esprit. Il percevait vaguement la présence de Saul à ses côtés dans le noir. Ensemble, ils regardèrent par les yeux de Harrington et virent Niemann Trask hurler quelque chose, se dresser sur son siège, lever les mains en signe de prière.
Auf Wiedersehen, dit l'Oberst avec la voix de Francis Harrington, et il relâcha le détonateur.
Le mur sud du couloir explosa, donnant naissance à une gigantesque boule de flamme orangée. Soudain, Saul vola dans les airs en direction des trois hommes en costume sombre. Leurs bras se levèrent, un pistolet tira, le coup de feu fut inaudible au milieu du vacarme qui régnait dans le couloir, puis ils se mirent à voler, eux aussi, poussés en arrière, et ils heurtèrent le mur du fond, une fraction de seconde avant Saul. Après l'impact, alors même qu'un flot de ténèbres se déversait sur lui, Saul entendit un écho. Pas celui de l'explosion, mais celui de la voix du vieil homme disant « Auf Wiedersehen !»